mais je vais pas chialer. Je vais pas foutre le feu, j'ai peur de me brûler.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro. On va passer une heure ensemble, on va parler de rock, on va parler de sorcières, on va parler de diables, on va parler de bourrins et peut-être d'apocalypse. Mais d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, c'est beau micro. On va passer une heure ensemble et on va, par le truchement des ondes radiophoniques, propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la musique franco-belge, de la BD franco-belge, du manga et du comics. Oui, je suis fatigué, ça s'entend. Mais je ne suis pas tout seul, je vais pouvoir compter sur mes acolytes. Ça va Florence ?
Ça va bien, merci.
Et Bruno, ça va ?
Oui, ça va.
Ah, attends, j'ai oublié, c'est pas le bon micro ?
C'est...
Si, c'est bon. Vas-y, okay. C'est bon.
Oui, ça va. Bonjour à tout le monde. J'ai entendu dans l'intro qu'on allait parler de rock et de bourrin, mais ça n'a rien à voir, on est d'accord.
Oui, non, c'est pas du tout la même chose, clairement pas.
Ça peut, mais là, non.
Non. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat de la radio si vous souhaitez discuter avec nous et sur la chaîne YouTube où nous sommes diffusés en direct. Comme on a un problème de caméra, vous allez pouvoir voir mon profil droit. C'est pas mon meilleur, je m'en excuse, mais au moins ça fera illusion et vous pourrez voir aussi les albums dont on vous parle quand on vous en parle. Voilà, il fait beau, c'est plutôt cool. On y va pour les infos, Florence.
C'est parti.
Allez, on t'écoute.
Alors les 25 et 26 avril prochains, à l'espace René Cassin, aura lieu la 36e édition des Journées de la BD au Pèlerin en Loire-Atlantique. Une quarantaine d'auteurs seront présents, dont Franck Bonnet, qui exposera ses planches et qui vient de sortir le tome 2 des aventures de son héroïne pirate, Anne Bonny, la Louve des Caraïbes. Sur place, il y aura la librairie temporaire gérée par l'association des Journées de la BD, ainsi que plusieurs bouquinistes. Des moments d'échange avec les artistes et des séances de dédicaces seront bien entendu prévues. L'entrée est de 4 euros et elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Toujours à la même date, les 25 et 26 avril, se tiendra également le festival BD-Cine à Dessines-Charpieu près de Lyon, au centre culturel Le Toboggan. Une trentaine d'auteurs et autrices seront présents, dont Philippe Larbier et Stan Silas, qui sont les invités d'honneur. Alors, ça sera les 25 ans du festival et comme c'est une édition anniversaire, il y aura une soirée spéciale le samedi. Donc, si vous voulez en savoir plus et que vous êtes de passage à Dessines-Charpieu, rendez-vous sur place. L'entrée est gratuite.
Trop cool.
Le 26 avril de 10h à 18h, c'est la commune de Palières dans le Puy-de-Dôme qui accueillera la première édition du festival Bulle en fête. L'événement sera dédié à l'auteur belge Herman, décédé en mars dernier, connu pour son univers très varié et ses œuvres réalistes, dont la célèbre série western Comanche, ou encore la série post-apocalyptique Jérémia. Parmi les animations proposées, vous pourrez admirer une exposition réalisée par les enfants de l'école de Palières, participer à des ateliers BD animés par l'auteur Laurent Bordier, ainsi qu'à la Tombola, où de nombreux lots seront à gagner. Et bien sûr, vous pourrez échanger avec les artistes présents sur place. L'invité d'honneur, l'artiste Lucien Rollin, doit malheureusement annuler sa venue pour des raisons médicales, donc on lui souhaite un très bon rétablissement.
Pas de bol.
Eh oui. L'événement sera gratuit. Un peu plus au nord, du 2 au 3 mai, à la salle Ouattremez, aura lieu le salon de la BD des arts graphiques de Roubaix. Une trentaine d'auteurs et autrices seront présents pour l'événement. Là encore, ça sera l'occasion de participer à des animations très sympathiques, expositions, projections de courts-métrages, mais aussi à la remise d'un prix jeune auteur. Petit bonus pour ce festival, venez avec un t-shirt blanc ou noir et repartez gratuitement avec un dessin d'un des auteurs imprimé en sérigraphie. Comme ça, votre t-shirt prendra de la valeur.
Mais c'est trop cool ça.
Et en plus, l'entrée est gratuite également.
Trop bien.
C'est tout pour l'agenda du jour.
Merci Florence. Je vais commencer avec un peu de jeunesse, comme ça après vous pourrez aller coucher les enfants. Je vais commencer avec un petit truc chouchou, moi, que j'ai kiffé. Alors vous allez le voir d'abord en fond, comme quand je vais commencer à en parler, puis je vous montrerai à la caméra juste après. Ça s'appelle Un crush d'enfer, c'est de Patrick Wirbleit, je suis sûr que je prononce très mal le nom, et Elva Lombardia. C'est publié aux éditions Un Aventurier d'ailleurs. De quoi ça parle? C'est très simple, on suit un jeune garçon qui est amoureux d'une fille. Il trouve qu'elle a l'air d'un ange. Trop choupi. Et pour séduire cette fille, il est persuadé qu'il lui faut un Vespa. Et pour avoir un Vespa, il lui faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il lui faut un job. Sauf que le super panneau de Liège avec tous les jobs de Pôle emploi, eh ben, il est un petit peu vide. Et il n'y a qu'un seul job qui est disponible, ramasseur de cendres. Et pour ça, il faut contacter Stan. Donc, il prend son téléphone et il suit un petit peu les instructions pour contacter Stan, à savoir se piquer le doigt et puis composer le numéro 666 sur le téléphone. Et eh ben, il va aller ramasser des cendres en enfer. Truc très rigolo, c'est qu'il va rencontrer des petits démons qui n'ont qu'une seule envie, eux, c'est de se faire la malle. Et quoi de plus sympa pour pouvoir se faire la malle que quelqu'un qui ne vient que pour travailler et qui rentre le soir chez lui? C'est juste trop rigolo, c'est très mignon. Moi, j'ai vraiment adoré, c'est très sympa. Il y a plein de bons sentiments, il y a des dessins qui sont très cool. C'est assez sobre dans la façon dont c'est dessiné. On est sur globalement des aplats, mais il y a beaucoup d'humour, c'est très mignon. Et puis on se dit, on a tous été un petit peu ados, et puis on a tous voulu faire à peu près n'importe quoi pour arriver à séduire la fille qui nous plaisait. Donc là, on rajoute ça avec un petit peu de fantastique. Et franchement, ça marche très très bien. L'histoire nous emballe systématiquement, et puis c'est franchement très cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis.
Ça a l'air, en tout cas.
C'est très mignon. Donc voilà. Moi, c'est vraiment. Allez-y, ça marche très très bien. Voilà. C'est très cool. On passe un bon moment. Ça se lit peut-être un petit peu vite, mais c'est pas le truc qu'on lui demande de. C'est pas un traité de philosophie, hein, soyons d'accord. Donc, je vous conseille fortement Un crush d'enfer de Patrick Wirbleit et Elva Lombardia. Et c'est publié aux éditions Aventurier d'ailleurs. Si vous regardez la partie vidéo, vous verrez que je oscille un petit peu, c'est que j'essaie de me caler et c'est pas tout à fait évident de se caler quand on voit pas tout à fait vraiment ce qu'on fait. J'ai également dans ma besace Mon ami zombie, publié chez Albin Michel, de Nena et Morin. Tout est dit dans le titre. C'est un jeune garçon qui, dont les parents en ont marre, en fait, qu'il accueille des animaux de compagnie qui décèdent dans des circonstances pas du tout étranges, hein. C'est juste que le gamin, il a beaucoup de mal à s'en occuper. Et puis, un jour, il dit, oui, mais papa, maman, là, j'ai un zombie. Ça va, les zombies? On a droit aux zombies? Et les parents, qui sont complètement perchés, disent, bah oui, pas de problème. Et du coup, on a un petit garçon qui se trimballe avec un pote zombie et qui n'a pas bien compris en fait le concept du zombie et va causer plein de problèmes. C'est très drôle, c'est un humour assez barré. Ce que je trouve très fun avec ça, c'est qu'on est sur de l'humour noir, mais pour enfants. Donc c'est assez sympa. Je sais pas comment. Alors je me suis posé la question de savoir à partir de quel âge. Parce que effectivement, là par exemple, on a le cimetière des animaux en fait du petit garçon. Voilà, ça parle quand même de la mort des animaux, de la maltraitance. Mais il y a beaucoup d'humour. C'est le petit garçon, il a l'impression que le zombie veut lui faire des bisous tout le temps, alors qu'il a qu'une seule envie, c'est de le manger. Et comme il se débrouille bien, bah il se fait pas manger. Et par contre, la maîtresse, elle se fait boulotter à un moment. Et du coup, il y a quand même un trauma de film de zombies là-dedans qui marche bien, et j'avoue que j'ai passé un excellent moment avec ça. Les parents sont complètement largués. ils se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. Le papa, à un moment, il dit, bah écoute, ça c'est une blague qui m'a beaucoup fait rire. Pareil, humour noir. Il veut pas du zombie à la maison. Donc il dit, bah on va le mettre dans la niche du chien. De toute façon, le chien, il est mort. Donc la niche, elle sert à rien. Et quand ils arrivent dans la niche, bah il y a un SDF qui est dedans. Donc il demande au SDF de partir pour laisser place aux zombies. Moi, ça me fait beaucoup rire, ce genre de vanne. Alors que c'est complètement irrévérencieux, c'est complètement atroce. Mais voilà. Donc, mon ami zombie, en plus, le dessin, il est plutôt cool. Ça marche bien, c'est du zombie à gros yeux, gros nez, on pourrait dire, mais c'est du dessin humoristique. Moi, j'ai passé un très bon moment avec ça. Et ouais, je pense qu'il faudrait plus souvent des BD qui sont juste à la limite de l'irrévérencieux, parce que les enfants, les blagues comme ça, ça les fait beaucoup marrer. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ?
Est-ce une suite de gags ou c'est une histoire ?
Un peu des deux. En fait, c'est une suite de gags qui raconte une histoire, puisque le zombie va créer une sorte d'invasion au fur et à mesure de l'avancée.
Et à chaque fois qu'il boulotte quelqu'un, il contamine, en fait.
C'est ça.
Comme
dans les vrais films de zombies.
Les vraies histoires de zombies.
Il les contamine, mais en même temps, en fait, il y a plusieurs histoires séparées en séquence, et au fur et à mesure, ça avance, ça progresse, et on voit l'histoire qui évolue au fur et à mesure. Donc ça marche bien, c'est une histoire qui est complète, c'est pas amené à faire une suite. Ça parle d'amitié, parce que il y a l'amitié de ce garçon et de ce zombie, mais il va aussi rencontrer d'autres élèves qui sont un peu marginaux et qui, à cause, en conséquence du zombie, vont pouvoir s'ouvrir un petit peu aux autres. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ne boutez pas à votre plaisir et puis vous me direz si vous avez aimé. Ça s'appelle Mon ami zombie, c'est publié chez Albin Michel et c'est de Nena et Morin. Je réfléchis. Est-ce que je plombe un peu le moral des gens ou est-ce que je continue sur les enfants, mais les enfants qui vivent des trucs pas joyeux?
Comme allez, tu le sens.
Les enfants qui vivent des trucs pas joyeux. Une grosse BD, je sais même pas si j'en ai pas déjà parlé, de Guerriero, ça vous parle pas?
Enfin, non. Ça dépend. Depuis que je viens, non.
Non, bon. Guerriero de Maria Isabelle Ospina et Jean-Emmanuel Vermeaux-Desroches, publié aux éditions d'Argo. De quoi ça parle? Eh ben, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Alberto et qui a grandi dans un petit village de Colombie. Colombie, un pays un petit peu particulier, hein, avec beaucoup de trafic de drogue, de choses comme ça.
Oh, juste un peu.
Juste un peu. Et en fait, quand il a eu 11 ans, ce jeune garçon a décidé de rejoindre la guérilla, enfin les guerrieros dans la guérilla. Et en fait, on va suivre son intégration dans les guerrieros, pas que lui, puisque sa sœur va aussi décider de rejoindre les guerrieros. Et on va découvrir ce que c'est qu'être un guerriero. Et ce que c'est être un guerriero, surtout quand on a 11 ans, qu'on découvre la guerre, qu'on est plutôt issu d'une famille pauvre et qu'on se rend compte que en fait être guerriero, ça ouvre quand même pas mal de portes. Et puis la façon dont ils sont perçus par les populations sur place et aussi les difficultés que ça peut engendrer. Il y a beaucoup de passages qui sont c'est pas voyeuriste, c'est pas de pathos, le garçon il raconte sa life par petite séquence, avec une progression, mais il y a toujours en fait des petits moments qui sont racontés. À un moment, par exemple, ils sont contents parce qu'ils se sont trouvés des cochons. Sauf que les cochons, très vite, vont être obligés de les manger. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça, avec pas mal d'humour. C'est vraiment très sympa sur justement la difficulté en fait de vivre dans un pays en guerre, dans un pays en guerre civile surtout. Et qui va pouvoir aussi un moyen de découvrir la partie géopolitique de l'époque. Il y a des passages qui sont un peu... On peut se poser pas mal de questions, puisque lui n'étant pas majeur, sa sœur n'est pas non plus majeure, et au sein des guerrieros, elle va se trouver des copains, des amants, et des fois ça peut choquer et heurter un petit peu. Mais c'est, à mon avis, il y a pas de violence. C'est vraiment un dessin en plus qui est très rond, très documentaire, qui me fait penser un peu à celui de Fabien Toulmé, qui a fait Ulysse, qui a fait Tu n'es pas celui que j'attendais, j'ai plus les termes. Et c'est franchement très agréable à lire. Et c'est pas, on s'appesantit pas. Il y a des moments de violence. mais qui sont, je sais pas si je vais pouvoir le trouver, mais il y a un moment des personnages qui sont en train d'exécuter de la violence et ils sont dessinés comme s'ils avaient été dessinés en mode méchant par un jeune garçon. Donc il y a une espèce de côté méta avec le gros nez, les dents en forme de scie assez pointue et ça marche très très bien. D'ailleurs sur la page que je montre à mes camarades, en fait, on a la différence des uniformes entre la milice, l'armée et les guérilleros. Des fois la nuance est assez subtile. Donc ouais, si vous voulez faire découvrir en fait la difficulté d'être un enfant dans un pays en guerre, Guerrero, c'est très très sympa et c'est franchement très cool à lire. Et c'est basé sur une histoire vraie, donc certainement remanié, romancé un petit peu, mais ouais, il y a moyen de faire quelque chose, c'est très cool. Je vous donne les références, c'est Guerrero, c'est de Maria Isabel Ospina et Jean-Emmanuel Vermot Desroches, et c'est publié aux éditions Dargo. Sur cet entrefait, je vous propose de faire une petite pause musicale. Je me suis dit qu'avec le contexte actuel sur l'essence et tout le bazar, je vais vous mettre un petit morceau qui s'appelle Kérosène, d'un groupe qui s'appelle The Warning. Allez, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
Et oui, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'entendre The Warning avec Kérosène. Je change mon casque parce que j'ai un problème d'oreillette que j'entends plus. Bon, je vais y arriver. Il y a un moment, c'est pas grave. Le but, c'est que vous m'entendiez bien. C'est pas trop grave. Je vais continuer comme ça. On va trouver un moyen. Voilà, pour que je m'entende. Je vais continuer avec un petit peu de manga, avec la grosse sortie qui a été faite aux éditions Kiun. On les a vus affichés à fond sur tous les, sur même les abribus. Et on a un petit bandeau sur le bouquin avec marqué recommandé par Koei Hiro Horikishi, qui est l'auteur de My Hero Academia, donc un auteur plutôt renommé. Et c'est Ichi the Witch d'Osamu Nishi et de Shihiro Usazaki. Ichi the Witch. Ichi est un prénom masculin. Witch est plus souvent associé à la sorcière, donc plutôt à la personne féminine. Et pourquoi ? Eh bien, on est dans un monde où les concepts magiques... certains concepts sont incarnés de façon physique par des entités magiques. Bon, c'est pas tout à fait des entités magiques, c'est de la magie à proprement parler, mais qui est incarnée dans un corps physique. Et les sorcières, si elles arrivent à battre en fait cette entité, elles peuvent utiliser les capacités. Par contre, chaque entité a une condition de victoire. Par exemple, il y a une entité qui est liée au feu, ben il faut arriver à survivre, je sais pas, 30 minutes dans son brasier et on peut être considéré comme l'avoir vaincu. Et il y a une entité qui que les sorcières n'arrivent pas à battre puisque une de ses conditions c'est qu'elle ne peut pas être battue par une femme. Bon, c'est un peu dommage puisqu'il y a que les femmes qui ont du mana hein, à peu de choses près. Et un jour, un jeune garçon Ichi, qui est plutôt orienté... lui, il est très très fort à Monster Hunter. Il adore tuer des créatures. Enfin, il adore les tuer. Il adore les chasser quand elles sont dangereuses et nocives. Et en fait, il considère que cette créature-là, il sait pas du tout que c'est un concept magique, est plutôt nocive, et du coup, il va y aller. Et il va arriver à la battre. Et du coup, il devient donc, par conséquent, une sorcière. Mais une sorcière qui a une particularité, c'est que cette entité magique... était l'entité de, alors je veux pas dire de bêtises, mais l'optimisation. C'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser n'importe quelle magie de la manière la plus efficace possible. Bon, la conséquence, c'est qu'il dort pendant 3 jours après, mais voilà. C'est très drôle, c'est très sympa. On est sur un univers qui est un petit peu à l'inverse d'une autre, puisqu'il est dominé par les femmes qui ont ces capacités magiques. Et on a cette exception, Ichi, qui vient et qui montre qu'il est aussi aussi capable. Et graphiquement, c'est très très cool, c'est très dessiné. Les sorcières, elles ont des costumes qui sont vraiment stylés. On a notre héros là qui se retrouve à avoir un costume de sorcière qui est franchement sympa. Donc ça marche très bien. C'est assez rythmé. On se retrouve avec un héros qui... est cheaté parce que il a comme compagnon en fait cette espèce d'entité magique d'optimisation, mais il a un contre-coup qui est quand même très fort. Donc il y a moyen de faire des choses assez intéressantes avec, sans que ce devienne un Deus Ex, une Marisou en fait beaucoup trop forte quoi. Et il y a pas mal de décors, il y a pas mal de choses en fait qui sont dessinées. Donc c'est vraiment un manga qui est très agréable à lire. C'est une bonne surprise à voir à l'avenir comment ça va se développer, parce que c'est toujours ça, hein. Des fois on a un pitch de base qui est très intéressant et puis qui s'essouffle assez vite. Mais là il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement d'entités magiques possibles en fait dans ce monde-là que ça peut être très 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 drôle et très sympa. Donc voilà, je sais pas si vous en aviez entendu parler ou si vous aviez vu les affiches, parce que ils ont vraiment bombardé, il y en avait même dans le métro de Paris, hein, donc
ah ouais.
C'était la grosse sortie. Voilà, donc Ichi the Witch, c'est publié aux éditions Kiun, et c'est d'Osamu Nishi et de Shiro Usazaki. Il va faire un effort sur les noms pour que je les prononce facilement un jour quand même, les gens. Hein. Merci à vous. Est-ce que tu veux parler rock and roll maintenant?
Je peux pas mieux faire, je peux pas mieux dire parce que c'est le titre de l'album dont je vais parler maintenant. Le titre de l'album c'est Rock and Roll, donc Rock and Roll, avec un sous-titre Salaud de Baby Boomer. On va comprendre pourquoi. Et c'est de ce bon vieux Baru, je me permets, parce que c'est pas un perdreau de l'année, et puis c'est quand même une référence dans la BD. Et ça parle de quoi? Je vous le donne en mille, effectivement, ça va parler de rock'n'roll. Yeah. Donc, en fait, la grande histoire du rock, elle est jalonnée d'instants décisifs, des concerts légendaires, des albums mythiques, et aussi, un peu trop souvent, des morts tragiques et parfois stupides. Perso, moi j'affectionne plutôt ces anecdotes souvent sans importance mais qui ont su parfois contribuer à façonner la carrière d'un groupe ou d'un artiste. Je vais pas en citer, il y aurait de quoi écrire une anthologie, mais de toute façon c'est pas le propos. Car au fond, que serait l'histoire du rock sans un élément essentiel et incontournable, le public? Le public qui remplit les salles, qui achète les disques ou qui désormais accumule les streams et accessoirement le compte en banque de ses idoles. Le rock sous toutes ses formes constitue la bande-son de la vie de millions de fans, parfois de façon omniprésente, voire obsessionnelle. Il en est pour qui il est inconcevable de passer une seule journée sans écouter cette musique divine et apaisante, même quand elle crache un flot de décibels saturés. Je suis de ceux-là. Et très modestement, ça me fait un point commun avec Baru, vétéran donc de la BD, Grand Prix d'Angoulême en 2010 quand même, s'il vous plaît,
quand même.
Qui n'a jamais renié sa passion indéfectible pour le rock'n'roll, qu'il a mise en image dans des albums comme Kékéd Blues, Sur la route encore, The Four Roses, là il était au scénario avec Jeannot au dessin, c'est malheureusement la dernière œuvre de Jeannot et je pense l'auteur de Kebra notamment, et j'ai bien peur que d'après ce qu'a dit Baru, ça sera sa dernière, et ou un autre titre fait péter les basses, Bruno.
Ça, donc, c'est bien.
Et donc, dans Rock'n'Roll, il évoque quelques moments et souvenirs vécus par lui ou certaines de ses connaissances et qu'il a librement réinterprété. Des tranches de vie qui ont marqué à jamais leur protagoniste, telle la découverte improbable de Jimi Hendrix à la salle des fêtes de Villerupt en Lorraine, à la fin des années 60. La rivalité entre Mods et Rockers en Angleterre dans les années 1960, qui a été notamment immortalisée par les Who dans Quadrophenia, donc l'album, et puis il y a eu le disque avec le film, pardon, avec on peut citer puisque c'est le plus connu des acteurs, Sting, qui joue dans cette comédie musicale que je vous conseille. Une histoire loufoque mais véridique, donc voilà les exemples. Il y a une autre histoire complètement loufoque mais véridique de poule libanaise sur fond de Rolling Stones, ou encore un rendez-vous banqué avec justement les Rolling Stones. Voilà, il y a une 7-8 histoires comme ça, plus ou moins longues, c'est pas préformaté, il y en a qui sont assez courtes. Celle sur les Mods et les Rockers, c'est la plus longue. Et donc avec son talent de conteur, Baru donne vie à ces anecdotes sublimes et dérisoires où se mêlent musique, chronique sociale et un brin de nostalgie, mais sans être larmoyant, grâce à l'humour dont il parsème habituellement ses récits. S'il ne fallait choisir qu'un seul adjectif pour qualifier son travail, ce serait assurément authentique, tant ses personnages et ses intrigues transpirent le vécu dans cet album, et à l'instar de toute son œuvre en fait. Comme toujours, son graphisme unique, dépouillé et percutant, Baru étant l'un des dessinateurs les plus originaux du 9e art, et c'est bien pour ça que il a eu le Grand Prix d'Angoulême, colle parfaitement à l'ambiance de chaque histoire, avec une alternance entre noir et blanc vintage qui correspond plutôt à des flashbacks, et puis des superbes couleurs vives, parce que Baru c'est encore quelqu'un qui travaille à l'ancienne, on va dire. Et à l'aquarelle, donc c'est toujours plaisant de lire ces récits, ne serait-ce que pour l'aspect visuel. Rock'n'Roll, c'est l'œuvre d'un amoureux du rock de la grande époque, des années 60-70. Le sous-titre ne laisse aucun doute là-dessus. Qui dresse quelques portraits et relate quelques moments inoubliables, comme tout amateur de binaire primaire aura toujours à en raconter. Ainsi, nous pouvons, nous aussi, même si c'est par la petite porte, entrer dans la grande histoire du rock.
Perfect.
Alors, c'est aux éditions Futuropolis. Je précise que c'était un service de presse. Merci. C'est peut-être un diptyque. Quand je vois que le sous-titre c'est un salaud de baby boomer, je me dis qu'il y aura sans doute un deux. Enfin, on l'espère.
On le souhaite.
Du coup, ça serait réjouissant. C'est paru le 11 mars 2026. Il y a 137 pages et la modique somme de 22 euros. Donc, c'est une fois de plus un super album de Baru, mais est-ce qu'il en a fait des mauvais? Je suis pas sûr du tout. Donc, j'ai pas tout lu, mais bon, ça, ce qu'on ceux que j'ai lus, ça se confirme à chaque fois. C'est un des grands auteurs de la BD. Il faut en profiter d'en avoir encore des comme ça.
Voilà. C'est clair. C'est clair, c'est clair. En tout cas, ça donne envie.
Ouais, et puis tout le monde s'y retrouve, quoi. Ça se lit de façon très agréable, et puis c'est tellement authentique, ça sent le vécu, que alors en plus si on est fan de rock, forcément ça parle. Mais c'est tout le monde peut s'y retrouver d'une façon ou d'une autre.
Même si on n'écoute pas du tout de rock, ça c'est super accessible.
Je veux dire l'histoire des poules au Liban pendant la guerre civile, enfin la guerre civile, c'est toujours la guerre civile là-bas, enfin en tout cas dans le sud. Oui, c'est complètement improbable et c'est assez marrant. Enfin, il y a des non, puis même si on n'est pas hyper branché rock, il y a de toute façon c'est des tranches de vie. Donc c'est ça qui est très fort avec Baru, c'est sa capacité à faire vivre, à restituer une chronique sociale en fait, et puis à parler de, c'est un gars qui vient d'un milieu très modeste, hein, immigré italien, voilà, dans le l'est, là en Lorraine, l'est minier, quoi, donc avec un lourd passé social, et donc tout ça, ça se ressent forcément dans toute son œuvre.
Eh ben parfait, donc on le conseille encore fortement. Moi, il me reste trois bouquins à parler. Est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Arthur de Pince?
Ah bah oui, ça, oui, oui, forcément. Ça, ça fait un. Si c'est ce à quoi je pense en entreapercevant la couverture, oui, effectivement.
Tu l'as lu celui-ci?
Je l'ai pas encore lu. J'ai un retard dans mes lectures terribles. Je l'ai pas encore lu, mais effectivement ça donne envie. Alors justement, tu vas me confirmer que j'ai bien fait de l'acheter?
Oui, je vais te confirmer que tu as bien fait de l'acheter. On va parler de Night Club d'Arthur de Pince aux éditions Dupuis. Night Club, pas comme la boîte de nuit, mais comme le club de chevaliers, puisque on va parler effectivement de chevaliers. C'est le 12e siècle, on a les croisades. Et on va suivre une jeune femme qui, pour défendre son village des invasions des, je ne sais plus comment il s'appelle, des vilains méchants, va recruter en fait un groupe de mercenaires, de chevaliers mercenaires. Et ils sont tous plus barrés les uns que les autres. On a la Saxonne énorme qui se bat à coups de hache, on a le jeune et faible qui passe plus de temps avec sa petite épée qu'avec sa grosse épée, on a le guerrier nordique, on a même un chevalier type Don Quichotte qui jure qu'il a rencontré Aliénor et qu'il ne se bat qu'à la lance et à cheval, parce que sinon c'est complètement improbable. C'est absolument génial, c'est truculent, tous les personnages sont complètement barrés. Et si l'histoire vous dit quelque chose, c'est une variation, on va appeler ça comme ça, un remake des Sept Mercenaires, qui était déjà un remake lui-même des Sept Samouraïs. Donc la boucle est bouclée. C'est très drôle. Il y a plein d'humour, comme Arthur de Pince sait le faire. Si vous connaissez Zombielennium, vous savez qu'on peut osciller entre des moments très sérieux avec une petite blague qui vient mettre la petite cerise sur le gâteau. C'est vraiment, moi je trouve ça très très drôle. Il y a toute une scène de fuite où le beau gosse fuit à poil parce que il était un petit peu occupé au moment où tout est arrivé. Donc c'est franchement très sympa. Il y a beaucoup d'humour. Il y a encore une héroïne très forte puisque chez Arthur Lepin, on a toujours des personnages féminins qui ont un vrai impact. En l'occurrence, on l'a même pas sur la couverture. C'est Séraphine qui fait des armures et du coup elle embauche cette clique de mercenaires en échange d'armures et elle va le protéger en fait son business. C'est très très bien. Moi j'ai passé un excellent moment, sauf quand on arrive à la fin et qu'on se dit la suite elle est où, parce que effectivement voilà. Arthur de Pince travaille en numérique depuis des années, mais il a une touche qui est complètement génial. Il y a du dynamisme, les personnages sont toujours très bien rendus. Il n'y a pas cet aspect factice, superficiel, je ne sais pas comment le dire. Il y a des fois des choses en numérique qui manquent de cœur, qui manquent d'âme. Là, on a toujours quelque chose qui fonctionne très bien. Encore une fois, il pousse un petit peu plus loin le curseur avec des jeux d'ombre, avec des dessins qui sont très travaillés, avec beaucoup de choses dessus. Et ça marche très très bien, c'est très immersif. J'ai passé un excellent moment à lire ça parce que c'est vraiment une pure pépite. Et alors j'ai pas le nombre de pages, je vais vous le trouver s'il faut, mais c'est une BD qui fait quasiment 200 pages mais qui se lit très facilement parce que c'est fluide. Il y a une narration qui marche très bien, même si des fois ça va à 200 à l'heure, ça passe très très bien, ça passe crème, c'est pas prise de tête, c'est popcorn et ça marche très très bien. Donc ouais, je vous le conseille, Night Club d'Arthur de Pince, et c'est publié aux éditions Dupuis.
C'est une valeur sûre hein. De ouais. Pince, je pense pas que lui non plus, c'est comme Baru, je pense pas qu'il ait fait de mauvaise BD. C'est toujours hyper original.
Ouais, et ça, puis début. Même si là, en plus, c'est un remake, parce que l'histoire de base, voilà,
disons qu'il groupe de mercenaires,
voilà. Mmh. Mais ça marche très très bien. Et voilà, si vous aimez, il y a cette ambiance un peu western en fait dans l'ambiance qu'on va retrouver et qui va rapprocher beaucoup les sept mercenaires.
Mmh. Et ce que tu disais sur la couleur à l'ordi, en fait, ça c'est maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs. Je crois que c'est même la majorité maintenant des BD, elles se font à l'ordi, la mise en couleur se fait à l'ordi. Mais en fait, quand tu prends une BD et que tu commences à la lire et que tu te poses pas la question de savoir couleur à l'ordi, couleur directe, ou les bons vieux bleus, ça se fait quasiment plus. Ça, c'était la BD franco-belge au tout début. En fait, c'est qu'il n'y a pas de sujet, c'est réussi. Et puis maintenant, on a des possibilités avec l'ordi de faire de créer des palettes graphiques avec des effets de texture et tout. Certains auteurs s'amusent à mélanger aussi entre guillemets du vrai du tradi et du numérique. Donc c'est pas le souci. Oui, par contre, effectivement, quand tu vois un truc et ça, entre guillemets, ça te pète à la gueule avec des gros aplats de couleurs, que c'est pas maîtrisé, et là tu dis waouh, ouais, c'est fait à l'ordi ça, et alors qu'en fait ça devrait pas, ça te prend quoi, alors que ça devrait ça fait partie du langage de l'auteur. Enfin, souvent c'est une coloriste qui fait le boulot, mais voilà, c'est le procédé. S'il est trop évident, s'il est trop marqué, s'il est trop simpliste aussi, c'est ça qui fait que ça va. En tout cas, il faut vraiment que derrière le dessin, l'histoire soit de qualité pour rattraper entre guillemets une mise aux couleurs ordi très cheap qui a pas grand intérêt. Et c'est pas le cas ici.
Non, c'est clairement pas le cas ici. Souvent, quand c'est mal fait, ça crée une distance, en fait, avec le média, et on n'a pas du tout envie d'y aller, en fait.
Ouais, t'as raison. Ce que tu disais, c'est ce côté artificiel. Effectivement, ça manque
de vivant.
Ça manque, oui, c'est ça. C'est aussi ce côté artificiel, superficiel, froid,
ouais.
Du numérique.
Que là, il n'y a pas, clairement pas. On se refait une petite pause musicale? Tu voulais que je mette un morceau.
C'était une suggestion. Puisqu'on a parlé de Baru et que de rock'n'roll et que dans rock'n'roll de Baru, il y a un moment donné, les Who en pleine action, donc grand groupe des années 60-70. Donc forcément, ça pouvait être pas mal de prendre celui-ci. Ça aurait pu être les Stones aussi, mais bon, voilà.
Et ben du coup, on part avec Substitute par les Who. Allez, vous êtes de retour dans la caisse de Seb. Vous venez d'entendre Substitute de The Who. Je sais pas, ça me fait bizarre de dire de The Who, de les Who, de
Who. Des Who, tu dis des Who en français, tu mets.
On n'est pas obligé de mettre le The.
Ouais, autrement, en anglais, tu dirais by The Who.
By The Who.
Ouais.
Ah, yes. Bref. Moi, il m'en reste deux à vous parler. Deux petits albums, de quoi caler un petit peu un meuble, je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur des bousins.
Ouais.
Et les deux sont dans des genres complètement différents. Je vous laisse le choix, Bruno et Florence. Est-ce que vous préférez un truc qui soit complètement barré ou un truc plutôt pas joyeux?
Complètement barré.
Je plus sois.
Allez, on va partir avec les basses œuvres publiées aux éditions des Humanoïdes Associés par El Diablo et Nico James.
Ok, ça je l'ai vu, c'est une... c'est un premier album du dessinateur, je crois.
C'est Nico James, du coup, qui fait un...
Ouais, okay. Ouais. El Diablo, c'est le dessinateur, il a bossé avec Sha aussi, chez Ankama, c'est un scénariste... Il bosse beaucoup chez Ankama, ouais. Mais j'aime bien ce qu'il fait.
Ça, c'est. J'influence personne, hein, mais c'est vraiment une grosse dinguerie. Moi, j'ai adoré. Comment vous expliquer le truc? Imaginez une petite ville qui s'appelle Portfield. Dans cette ville-là, il y a une mafia avec Don Burin qui se prend pour un mafieux un petit peu à la Scarface. Hein. Il domine le truc, il domine le game et tout le monde respecte ses ordres à pied, enfin à la lettre. Il y a deux hommes de main, un qui est plutôt sapé super classe et puis l'autre qui est tout le temps en jogging, qui est plutôt la grande frappe. D'ailleurs, il se chamaille pas mal, hein, parce que celui qui est en jogging, il dit bah ouais, mais quand on a besoin de courir avec tes pompes à 2000 balles, bah toi tu glisses, moi pas. Donc déjà. Rajouter à ça une jeune fille qui a fui de chez elle et qui doit de l'argent à Don Burin et du coup est stripteaseuse dans son club. Rajouter à ça un flic incorruptible et adepte des grands coups de latte qui arrive dans ce bled-là et qui n'a qu'une seule envie, c'est de faire tomber Don Burin pour pouvoir retourner chez lui couvert de gloire. Bon, il pensait arriver discrètement, tout le monde est au courant qu'il est là. Et puis rajouter par-dessus un type qui n'a qu'une seule envie, c'est de faire régner la justice façon Batman dans son bled, sauf qu'il est un tout petit peu demeuré et qu'il se surnomme El Chupacabra. Eh ben, vous avez tous les éléments pour une BD complètement barrée, complètement géniale. Ça part dans tous les sens. On a des petites séquences en fait qui progressent l'histoire. Chacune sur orientée plutôt sur des personnages et sur leurs interactions du quotidien, et ça bouge beaucoup. J'ai oublié de mentionner un personnage, parce que je dis que Don Burin, c'est lui qui gère un petit peu tout, mais peut-être que sa femme tire peut-être un peu plus les ficelles que lui. Graphiquement, il faut aimer, hein. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois rentré dedans, ça passe très très bien. C'est un dessin qui est très anguleux. On a des personnages qui ont des têtes complètement allongées parce qu'ils ont un gros menton. On a des personnages très mouse. Je suis retombé toujours sur les mêmes gammes de couleurs. Mais le mec qui est en jogging, c'est une énorme masse qu'on peut retrouver sur la partie haute. Et puis on a l'autre là, par exemple, qui a une espèce de grand menton un peu bizarre. Et en vrai, le dessin, il est complètement éclaté, mais il est très efficace. On a l'impression que c'est mal fait. J'utilise toujours cette façon de dire, alors qu'en fait, c'est très maîtrisé.
Oui, ouais, c'est un style très très lâché, effectivement un peu trash, quoi. Le dessin est un peu trash, mais du coup, ça semble bien aller avec l'intrigue.
Et ça marche, ouais. Trop bien. Les personnages féminins arrivent à être à avoir ce côté un peu sexy recherché. J'aimerais bien vous montrer le Chupacabra parce qu'il est complètement barré. Bon, bref, c'est pas très grave, mais voilà, on a de la sensualité alors que voilà, c'est polygonal, hein. Mais ça marche très bien. Puis les gammes de couleurs fonctionnent, ça, on sait là par exemple sur la page que j'ai montré à mes camarades avec des teintes rosées et violettes qu'on est dans un nightclub. Il y a tout qui fait que ça passe très bien. Donc
est-ce qu'on disait sur les couleurs à l'ordi ?
C'est ça. Ça marche juste super bien. Je retrouve pas le Chupacabra, mais c'est pas grave. Après, voilà. On a ce genre de choses-là aussi, de pages qui marchent très bien, donc.
Ah, ça fait peur.
Et en vrai, les pages, voilà. Alors là, par contre, on est sur 450 pages.
Ouais, c'est ça.
Mais ça se dévore à une vitesse, et c'est juste trop bien. Oui, sur le personnage de dos. Voilà. C'est voilà, vous aimez les histoires de mafieux, vous aimez quand elles se finissent un peu bizarrement, ben prenez ça, ça marche trop bien.
C'est, et du coup, c'est un one shot.
Ouais, c'est un one shot. Ouais. Oui. Ils peuvent s'ils veulent en rajouter un petit peu, mais c'est pas nécessaire.
Bah, si t'as un deuxième meuble à caler.
Ouais. Ben si j'ai un deuxième meuble à caler, j'ai l'autre à côté.
Voilà. Ah oui, d'accord.
C'est pas le même.
Faut pas que ce soit le même meuble.
Non, faut pas que ce soit le même meuble.
Il est un peu plus petit.
Alors c'est pas des services. Depuis tout à l'heure, en fait, je parle que de bouquins qui ne sont pas des services de presse. Hein. Je l'ai pas précisé, mais je le remets là. Et du coup, ben voilà, les bases d'œuvres, c'est Aux Humaines et d'Associés, Del Diablo et Nico James. Et en vrai, c'est juste très très bien. C'est vraiment fabuleux. Un autre, tout aussi fabuleux, mais dans un autre style. Complètement différent. Off de Romain Renard, Olivier Tollet et Patrice Regla-Vizzavona, publié aux éditions Daniel Meghen, un ouvrage à moins tout aussi imposant, j'ai pas regardé le nombre de pages, mais qui est vraiment très très bien aussi. On est sur combien de pages? On a dit allez, 360 pages, mais le premier est en couverture souple, celui-ci est en couverture rigide, cartonné. Off, comment vous expliquer ? Alors imaginez la Belgique. On suit une politicienne dont la rumeur nous dit qu'elle va peut-être démissionner pour des raisons de santé. On suit des gens dans une ferme qui vont peut-être essayer de passer en bio et doivent faire attention à la gestion de leur personnel et à la maladie qui attaque leur vache. On suit un flic dont la femme est enceinte de beaucoup et peut-être qu'elle accouchera prochainement. Et dans ce monde-là arrive un événement un petit peu particulier, à savoir une éruption solaire qui va créer des aurores boréales et couper tous les systèmes électriques. Plus de téléphone, plus d'électricité, plus de talkie-walkie, plus rien qui ne fonctionne à part quelques ondes radio et encore c'est plutôt chaotique. Ben, comment on survit dans cette Belgique où tout est en train de partir en vrille? L'avion royal se crache en plein Bruxelles. Il y a rien qui va. Et tous les personnages que j'ai mentionnés depuis tout à l'heure sont globalement tous les membres de la même famille. Avec les petites animosités qu'on peut avoir en famille. Renversement politique, émotion, il y a vraiment tout là-dedans qui fait que ça marche très très bien. Romain Renard, moi je l'avais découvert avec Melville, je sais pas si t'avais lu ça. C'est un gars qui sait raconter des histoires, qui sait te mettre des personnages et des ambiances. Il a toujours eu, enfin, dans les bouquins que j'ai utilisés, il était toujours sur ces teintes un peu vertes, marron, avec ces ambiances un peu glauques. Ouais, c'est le vrai terme.
Bah, glauque, c'est vert en fait.
Ouais.
Au départ.
Et ça marche très très bien. Il met une angoisse. C'est pas de l'angoisse où on te stresse vraiment. C'est l'angoisse du quotidien.
Ouais, c'est pas de l'épouvante.
Non, c'est pas de l'épouvante. Par exemple, on a la politicienne qui est en train de faire un discours où du coup, elle va pas annoncer qu'elle s'en va parce que du coup, faut quand même tenir un peu le gouvernement. Et deux pages plus loin, si je ne me trompe pas, elle est par terre en train de fumer sa clope, limite en train de pleurer quoi. On a cette émotion des personnages qui fonctionnent très bien et on s'attache à eux. Le monsieur dont la femme est enceinte, il va lui arriver des trucs pas très joyeux. Bon, je spoil un petit peu. Il faut qu'elle soit opérée pile au moment où la coupure de courant arrive. Donc, soyez pas sur une table d'opération quand on coupe le courant. C'est une très mauvaise idée. Et en vrai, c'est du post-apo, mais humain, c'est pas il y a des catastrophes, mais c'est pas le but, c'est pas Michael Bay quoi, carrément pas. Puis en plus le fait de faire ça en Belgique, ça limite encore plus la dimension. Tout le monde pense que la Belgique c'est un pays plutôt tranquille quoi, et ça marche excellemment bien. Et c'est vraiment très très beau en plus. Romain Renard, un dessin. Et une façon de raconter les choses qui sont, je sais même pas si c'est lui qui a fait tout le dessin, mais ça lui ressemble déjà vraiment beaucoup. Mmh. Et ben c'est même pas lui qui a fait le dessin. Mais voilà, on retrouve cette ambiance et je pense qu'il a réussi à insuffler tout ça et ça marche très très bien. Vraiment, c'est un pur moment. Voilà, si vous voulez un post-apo qui change de l'horreur, des explosions dans tous les sens, c'est ça qu'il vous faut.
Mais du coup, qui a fait le dessin?
C'est Patrice Regla-Visavon, que je ne connaissais pas, en fait. Donc, voilà. Avec une petite éruption solaire dès le début. On nous annonce tout de suite le game. Voilà. Off, 380 pages, j'ai dit tout à l'heure, 360. 340 pages pour 32€.
C'est
carrément rentable. Chez Daniel Meghan.
Ah, c'est Meghan, oui.
Daniel Meghan édition et ça marche très bien. En plus la couverture est cool avec le off en vertical. C'est très très cool. Voilà. C'est pas mal. Je vous conseille vraiment toutes ces BD toujours, mais là certaines plus que d'autres encore parce que il y a vraiment eu beaucoup de coups de cœur là, moi je trouve sur ce soir. Donc voilà. On se refait un petit récap.
Ah bah, il va y avoir de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Allez, on commence avec les trucs tout jeunes.
J'étais en train de regarder. Effectivement, le dessinateur là, dont tu viens de parler pour Off, Patrice Regla Visanova, il avait fait un bouquin. Du coup, j'ai une dédicace de lui. Il avait fait un bouquin à Angoulême qui s'appelait, c'était chez Varum, petit éditeur, qui s'appelait Le Passager. Et c'était l'histoire d'un type qui partait en solitaire avec son bateau, qui graphiquement était assez bluffant. Et du coup, voilà, c'était son premier album. Donc voilà, donc effectivement, il n'arrive pas de nulle part.
Oui, il n'arrive pas de nulle part.
Voilà.
Il est belge, j'imagine quand même.
Il est né, non, il Regla Visanova, ça fait pas très belge. Hein. Il est né dans le sud-ouest de la France.
Voilà. Okay.
Il devait être fondeur d'art, mais il a passé 10 ans à Bruxelles à étudier l'illustration et la gravure à l'Institut Saint-Luc, qui est le grand institut
de la
BD en Belgique.
Eh ben parfait. On a parlé en tout début de Un crush d'enfer, publié aux éditions Aventurier d'ailleurs, de Patrice Werbeleit et Elva Lombardia. Très très cool. On a parlé de Mon ami zombie, de Nena et Morin, publié aux éditions Albin Michel. C'est des bisous la caméra. Bon, bref, faut arrêter avec la caméra.
Je vais bouffer la caméra,
c'est ça. On a parlé de Guerriero, publié aux éditions Dargo, de les problèmes de vue maintenant, de Maria Isabella Ospinoza et Jean-Emmanuel Vermeaux-Desroches. Très très cool aussi à lire. On a parlé d'Ichi the Witch, publié aux éditions Kiun, d'Osamu Nishi et de Shiro Usazaki. Pas très simple à prononcer non plus. On a parlé de Night Club, d'Arthur de Pince, publié aux éditions Dupuis. On a parlé de Rock'n'Roll, tome 1, salaud de Baby Boomer, de Baru, publié aux éditions J'ai perdu Futuropolis. On a parlé, pour finir, des basses œuvres d'El Diablo et Nico James, publiées aux éditions Humanoïdes Associés. Et on a fini avec Off de Romain Renard, Olivier Tollet et Patrice Regla Visavona, publié aux éditions Daniel Maguen. Et ben si, et puis en plus avec le volume de pages qu'on a évoqué ce soir, si vous n'avez pas de temps de lecture, voilà, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est pas mal tout ça.
Il y a de quoi faire. Hein.
Ouais, vous avez passé un bon moment?
Là c'était je suis pas sûr qu'on y a pas beaucoup d'émissions où on en a autant.
On a des interviewés donc forcément.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas d'interview.
Là, on n'avait pas d'interview forcément ce soir.
Ouais.
Donc voilà, ça vous montre quand même qu'on lit pas mal en ce temps-là. Donc c'est plutôt cool. That's all folks. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis Porky, mais du coup, voilà. Il annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous soyez sur le chat, sur en live YouTube. Bruno, tu voulais dire
Dernière petite annonce à faire, c'est que si vous voulez voir des auteurs en dédicace, je sais pas si on en a parlé, il faut aller à la Foire Expo la semaine prochaine. Enfin non, c'est la semaine prochaine.
C'est cette
semaine. À partir de vendredi, samedi, dimanche, il y aura des auteurs angevins en dédicace à la Foire Expo. Car pour la première année, il y a un stand en GBD à la Foire Expo. Effectivement, je plaide coupable parce que j'y pense maintenant et j'aurais dû en parler à Florence pour qu'on en fasse une news.
Non, c'est ma faute. Pas la tienne.
Non, mais fallait le savoir parce que bon, il y a pas eu de grosse com là-dessus, mais bon, les gens en ont un peu parlé, voilà.
Et donc, allez-y, il y a pas de souci.
Allez-y. Voilà.
Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance parce que moi, j'ai appris à lire, je peux de ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touf.
Batman. Trompez vite. Venez pas, faites-moi ici.
Justement, les touristes de bord.
Batman.
votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
And I should have closed my eyes. I should have closed my eyes, but it was so bright, so bright, so bright that I forgot.